تلكال بودكاست.
Bonjour, c'est Kitab, le podcast littéraire de Telquel. Je suis Murtada Kalami et ma collègue Sundou Shraibi va nous rejoindre dans quelques instants. On va tenter de rendre hommage à l'immense Fatima Mernissi, sans oublier, à la fin de cet épisode, votre rendez-vous avec l'actualité du livre. Elle est née en 1940 et nous a quittés en 2015. Mais Fatima Mernissi est devenue célèbre en 1996 à la sortie de « Rêve de femme ». Publié 2 ans plus tôt en anglais aux États-Unis, l'ouvrage a été traduit dans plus de 20 langues, arabe, espagnol, chinois, japonais, indonésien, croate, serbe, suédois. Elle y raconte une enfance dans un harem domestique à Fès dans les années 40. À partir de ses souvenirs, le truculent récit est aussi romancé que nourri par la sociologie qu'exerce l'universitaire. La grand-mère de la narratrice lui déclare « Tu deviendras une dame moderne, instruite. Tu réaliseras le rêve des nationalistes. Tu apprendras les langues étrangères. Tu auras un passeport. Tu liras des milliers de livres et tu t'exprimeras comme une autorité religieuse. » Fatima Mernissi, en tout cas, a suivi à la lettre ce programme, franchir toutes les frontières. Et en présentant son livre à travers le monde, elle s'est aperçue que souvent, en Occident, les lecteurs avaient un sourire gêné en prononçant le mot « harem ». Elle soupçonne comme un léger malentendu. L'enquête et la réflexion que cela lui inspire formeront son titre suivant, Le harem européen. Avec un humour ravageur, elle y raconte son gigantesque éclat de rire au musée du Louvre en découvrant comment Ingres et les peintres romantiques s'imaginaient les harems. Croire que l'enfermement spatial soit accepté passivement par les femmes est une idée misogyne en soi, dénonce-t-elle, alors que la culture musulmane parle, elle, constamment du non-consentement féminin, insiste notre facie. Les cultures européennes lui semblent réduire l'idéal féminin au fantasme d'une ravissante idiote qu'elle retrouve jusque chez Kant, pour qui l'étude laborieuse ou la cogitation morose, encore qu'une femme puisse y exceller, anéantissent les avantages qui sont propres à son sexe, cite-t-elle épouvantée. Se pourrait-il qu'en Orient, la violence imposée aux femmes vienne de ce qu'on leur reconnaît la faculté de penser et donc d'être des égales, et qu'en Occident, les choses aient l'air plus cool parce que le théâtre du pouvoir gère la confusion entre masculinité et intelligence, fait-elle mine de s'interroger. Elle va plus loin et remarque que les occidentales sont elles aussi cernées de frontières, mais immatérielles. Dans un grand magasin new-yorkais, elle repère une jupe qui lui plaît. La vendeuse, méprisante, lui répond qu'elle n'a pas sa taille et qu'il y a des magasins spécialisés pour elle. Dans ce magasin tout entier, qui fait 100 fois le bazar d'Istanbul, vous n'avez pas de jupe pour moi, vous plaisantez, s'énerve la sociologue, qui en déduit qu'il existe aussi un harem taille 38. Elle explique, les Occidentaux n'ont pas besoin de payer une police pour former les femmes à obéir, il leur suffit de faire circuler les images pour que les femmes s'esquintent à leur ressembler. Elle cite la domination masculine de Pierre Bourdieu, pour qui la violence symbolique se définit comme une forme de pouvoir qui s'exerce sur les corps directement et, comme par magie, en dehors de toute contrainte physique. Et si quelques Américaines reçoivent l'analyse de la Marocaine avec condescendance, des figures féministes comme Mona Chollet ou Naomi Wolf s'y reconnaissent et s'en saisissent. Enfin, parmi les grands thèmes des travaux de Mernissi revient la mémoire des grandes aventurières, sultanes oubliées ou femmes du prophète de l'islam. Elle met en avant les valeurs féministes de liberté et d'amour dans le patrimoine culturel islamique en général et marocain en particulier. Encore une frontière qu'elle a franchie. Nous l'évoquons tout de suite avec Sundou Shraibi. Bonjour Sundou.
Bonjour Murtada.
Alors pour le numéro 929 de Telquel, vous avez interviewé différents témoins et acteurs de gens qui ont connu et travaillé avec Fatima Mernissi. Qu'est-ce qu'ils en disaient? Vous aviez eu notamment, je crois, sa sœur, ce qui, je crois, était une première.
Exactement. C'était une première parce que c'était la première fois qu'elle acceptait de s'adresser à la presse. Elle a eu, bien sûr, un tas d'anecdotes d'enfance, mais aussi de Fatima Mernissi, adulte, femme, qu'elle a pu partager avec nous. Et donc, elle raconte ses bribes de souvenirs d'enfance et elle parle aussi de rêves de femmes. Et c'est là où elle explique que rêves de femme n'est pas tant une autobiographie comme on peut faussement le croire. On parle souvent d'autofiction et le mot fiction est très important. Donc, ce qu'explique Latiba, donc Latiba Benissi, la sœur de Fatema, c'est qu'elle s'est rendue compte elle-même en le lisant que c'était avant tout de la fiction. Qu'elle arrive à restituer certains éléments qui sont vrais, desquels Fatema Benissi s'est inspirée, mais qu'il y a aussi toute une sorte de puzzle que Fatema Benissi a créé en construisant à la fois son intrigue, sa fiction et ses personnages. Et comme le dit très bien sa sœur, Fatema Benissi dans ce roman est tous les personnages à la fois. Elle est à la fois la petite fille, elle est la tante Habiba divorcée qui raconte des histoires à tout le monde. Et le seul élément biographique 100% vrai, comme si on pourrait le dire comme ça, c'est Yasmina, la grand-mère, qui a beaucoup forgé la femme qui est devenue Fatema Benissi dans la vraie vie.
Alors, parmi les témoignages recueillis, il apparaît que Fatema Benissi aurait été une petite fille, alors qui a été protectrice, une petite fille puis un peu plus grande, mais protectrice de sa petite sœur, qui a été aussi très tôt meneuse et très inventive dans les jeux en famille, notamment les jeux sur la terrasse, qu'elle décrit d'ailleurs de façon romancée, mais qu'elle décrit très bien dans Rêve de femme. Vous avez quelques...
Alors, il faut dire qu'il y a plusieurs... J'ai demandé en fait à tous ces intervenants-là qu'est-ce qu'ils gardent de Fatema Benissi, quels sont les traits de caractère, en fait, les choses dont ils se souviennent encore. Et donc oui, effectivement, il y a cet aspect la protectrice qui est beaucoup revenu, notamment avec la sœur, avec le cousin, Abdelrahman Tiazi, le réalisateur qui prépare actuellement un biopic de Fatema Benissi. Et donc oui, elle raconte, Ratiba raconte que Fatema Benissi était très protectrice avec elle puisqu'elles étaient toutes les deux orphelines de père et que grâce à Fatema, elle n'a jamais senti en fait qu'elle était orpheline. Et puis, elles avaient cette relation très fusionnelle puisque même lorsque Fatema Benissi est partie poursuivre ses études à Londres, elles ont conservé une correspondance très régulière. Et puis, il y avait cette créativité aussi. C'est un mot qui est beaucoup revenu, surtout de la bouche d'Abdelrahman Tiazi, qui raconte un petit peu ces jeux qu'ils inventaient ensemble, cette façon qu'ils avaient de créer des vélos à partir de rosiers, des bateaux à partir de petits bâtons de bois. Il y avait ça, et puis il y avait le fait que Fatema Benissi était une conteuse née. Et ça, je pense que c'est l'adjectif, on va dire, qui est revenu le plus. C'est la façon avec laquelle Fatema Benissi n'est pas devenue conteuse ou écrivaine, mais qu'elle l'a toujours été, même lorsqu'elle était petite. Elle aimait se mettre en scène devant des adultes, faire des spectacles devant les membres de sa famille. Elle aimait raconter des histoires aux plus grands, aux plus petits. Et c'est ce qui revient aussi aujourd'hui lorsqu'on relit ces livres. On sent cette aura de conteuse.
Cette nature de conteuse. Elle avait un caractère très généreux aussi, j'ai cru comprendre.
Oui, ça revient aussi. Déjà, quand ces intervenants-là, comme Driss Kikus, comme Asma Amrabat, qui racontent qu'ils étaient toujours accueillis avec énormément d'hospitalité chez Fatema Benissi, il y avait toujours une abondance de thé, de gâteaux marocains. Et puis, cette générosité-là qui remonte à l'enfance aussi, puisque, encore une fois, Latiba Benissi le dit que sa sœur n'hésitait jamais à aller donner des bijoux que sa mère lui offrait à des mendiants dans la rue, à des gens qui n'avaient rien. Elle allait jusqu'à l'autre bout de Fès pour donner son sang à une vieille dame malade. Tout ça sans que sa mère le sache.
Alors ça, c'est intéressant parce que ça, c'est une... On pourrait dire que c'est une première traversée des frontières sociales.
Oui.
Et je crois que le thème de la frontière est très important, en tout cas dans son travail et dans les textes. La première frontière étant évidemment, si on part de Rêve de femme, étant la frontière du harem, le seuil de la maison, c'était le titre original en anglais, Dream of Trespass. C'était les rêves du seuil, mais évidemment, ça passait pas très bien en français comme titre. Mais donc, ce franchissement de frontières, c'est important chez elle. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'importance que ça peut prendre? Exemples qui nous suggèrent l'importance que ça prend chez elle.
Alors, la frontière chez Fatema Benissi, c'est avant tout le harem, qui va revenir dans plusieurs titres de ses romans. Le harem politique, le harem européen, et bien sûr, il est au centre de Rêve de femme, puisque c'est l'enfance de Fatema Benissi qui se déroule dans un harem. Alors, cette frontière, dans le cas du harem, elle est avant tout physique. On a des murs qui entourent une maison et que les femmes ne peuvent pas dépasser. Donc il y a cette notion-là de murs qui sont absolument omniprésents. Fatema Benissi, en tant que petite fille, se pose la question, se demande pourquoi ces murs sont là. Ils sont remis en question, elle essaie de les expliquer, avec bien sûr toute son imagination de petite fille. Et puis, toujours dans cette même lancée, elle développe des petits stratagèmes pour s'en échapper. Elle pense à grimper par-dessus la terrasse, elle pense à sauter. Elle raconte que si on le fait, on tombe et on se fait mal. Donc les murs reviennent beaucoup. Ça, ce sont avant tout les frontières physiques, qui sont bien sûr une réalité du harem. Et puis il y a la frontière morale, qui elle, on va dire, est plus élaborée, plus subtile, plus implicite. Et c'est l'enfermement, tout simplement. L'enfermement des femmes, qui ne passe pas seulement par des murs, mais aussi par leur manque d'accès à l'éducation. Elle dit à plusieurs reprises que Yasmina, sa grand-mère, ne sait pas lire, ne sait pas écrire, que sa mère aussi. Et puis la frontière morale, c'est aussi les lois. Et Fatema Mernissi, petite fille, pose la question des lois à sa mère et lui demande pourquoi nous n'avons pas le droit de faire ça, pourquoi ces lois sont faites ainsi. Donc la frontière est très fluide chez Fatema Mernissi et elle englobe tout un tas de sens différents et prend plusieurs dimensions.
Alors, cette frontière, c'est aussi, parce que alors, elle en parle très, très vite dans le roman, c'est aussi la frontière coloniale, c'est-à-dire qu'elle a un moment assez, assez étonnant, elle ouvre quasiment le livre en disant que ça avait été un choc, cette frontière qui avait été créée par les Espagnols et les Français entre le Rif et le reste du Maroc, c'est son sujet à elle en tout cas, et elle évoque le fait que jusque-là, effectivement, on pouvait aller de Rabat à Jérusalem sans jamais traverser une quelconque frontière. Bon, en réalité, il y avait quand même les portes des villes qui faisaient... Mais la création de la frontière, l'intervention de la frontière dans la psyché marocaine, pour Fatema Mernissi, c'est quelque chose d'assez récent, et elle évoque d'autres formes de frontières et notamment elle va ramener d'une expérience à New York la notion de harem taille 38, comment les femmes sont enfermées dans le diktat de la mode, mais pas seulement de la mode d'ailleurs.
Alors à l'époque, c'est ça toute la nouveauté de Fatema Mernissi, c'est transposer ces frontières, et c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que ce sont des frontières que l'on a étiquetées au monde arabe, au monde oriental, mais qui en fait existent ailleurs, il suffit de les voir différemment. Et en fait, ces frontières, qu'elles soient physiques ou morales, elles relèvent de l'enfermement. Comment les femmes sont enfermées. Et dans Sherazade Goes West, qui est donc là où elle développe cette idée de harem taille 38, c'est cette façon de dire que les femmes occidentales, que les femmes européennes, elles aussi, sont soumises à des standards qui leur sont imposés et dont elles ont du mal à s'échapper. Comme celui, donc une femme doit être mince, elle doit répondre à certaines normes physiques, à certaines normes de beauté. Et en Europe aussi, comme dans le monde arabe, les femmes sont soumises à certaines normes sociales sans qu'on leur demande leur avis.
Oui, tout à fait. Donc, avec le fait notamment qu'une femme ne peut pas être à la fois belle et intelligente.
Voilà.
Elle ne peut être que l'une ou l'autre à la toute rigueur. Bon, mais donc, il faut lire Fatema Mernissi pour rentrer dans les détails de tout ça. Et Fatema Mernissi, donc... On en parle comme d'une grande féministe, mais je pense qu'elle insiste beaucoup, et c'est présent dans Rêve de femme, sur le fait que la génération nationaliste dans les années 40 était féministe, que elle a eu le soutien des femmes de sa famille, mais aussi des hommes de sa famille pour sortir du harem et aller étudier.
Exactement. Alors, ce qui est très intéressant dans Rêve de femme, c'est la multitude des personnages qui existent, des petits, des grands, des personnes âgées, des hommes et des femmes, les deux. Et donc, parmi ces hommes, la construction des personnages masculins dans Rêve de femme est très intéressante. Il y a la figure du père, tout d'abord, qui veut que sa fille apprenne, qui veut qu'elle ait accès à un certain niveau d'éducation, qui d'ailleurs refuse d'une certaine façon, alors pas entièrement, mais dans une certaine mesure, qui refuse les contraintes du harem, qui essaye de passer du temps privilégié avec sa femme, avec sa petite famille, en dehors du regard de la mère et des autres femmes, et de vivre en fait cette vie de famille que la mère de Fatema Mernissi souhaite. Donc lui, il fait partie de cette génération d'hommes nationalistes qui adhèrent effectivement à un courant très progressiste en termes de féminisme, en termes de sexisme. Il y a aussi, par exemple, on peut citer le personnage, le cousin Zayn, qui est donc ce cousin que la petite Fatema Mernissi admire, qui est reconnu pour sa beauté, pour son intelligence, et qui fait partie de ces hommes nationalistes, modernes, avec des idées qui sont complètement nouvelles. Et ce sont ces hommes-là qui introduisent ces idées d'une façon ou d'une autre au harem. Fatema Mernissi, petite fille...
dans les années 40, donc.
Voilà. Assiste aux réunions dans ces salles pleines d'hommes qui discute de l'actualité, de cette actualité nationaliste. Elle apprend et bien sûr cela attise sa curiosité. C'est aussi ça qui a formé la Fatema Mernissi que nous connaissons.
Et alors, Un des aspects de son travail aussi, on est obligé d'en dire quelques mots au moins rapidement, c'est que quand elle dénonce le patriarcat, elle souligne aussi qu'il y a une dimension féministe au sein même de l'islam, au sein de la tradition, de la culture arabe en règle générale, et au sein même de l'islam, elle va trouver des arguments pour le féminisme et des arguments féministes.
Bien sûr, et c'est peut-être pour cela qu'elle est le plus connue, mais ce qu'il faut surtout souligner, c'est qu'en ce sens-là, elle est pionnière. Fatema Bernissi a peut-être été la première personne à juxtaposer les mots sexe et islam dans une même phrase et encore plus dans un titre de livre ou d'ouvrage universitaire. Et elle pose des questions, bien sûr, qui n'ont jamais été posées. Avec le harem politique, qui est son œuvre phare, peut-être la plus connue, elle analyse l'exclusion de la femme arabe de la sphère politique. Et ce qui est encore plus intéressant chez Fatema Bernissi, c'est que tous ces ouvrages peuvent être mis en lien les uns aux autres. Donc on va parler, si on parle de l'exclusion des femmes en politique dans le harem politique, on retrouve aussi ça dans Les Sultanes oubliées, les femmes chefs d'État dans le monde musulman. Et l'anecdote derrière cet ouvrage-là est très connue, mais c'est toujours un plaisir de la rappeler. Lors de l'élection d'une femme chef d'État au Pakistan, toute la presse a titré « première femme dirigeante dans le monde musulman ». Fatema Bernissi, comme l'a raconté Leïla Chaouni dans l'article, Fatema Bernissi était affolée, scandalisée. Elle disait « comment ça, première chef d'État ?» C'était pour elle inadmissible. Il y en avait toute une lignée qui était complètement oubliée et marginalisée par l'histoire. Et c'est comme ça qu'a été conçue Sultanes oubliées.
Elle a aussi écrit « L'amour dans les pays musulmans ».
Oui. Et encore une fois, on retrouve cette idée selon laquelle l'amour, le sexe, l'érotisme ne sont pas des choses qui ont été importées dans le monde arabe par le monde occidental. Absolument pas. Ce sont des choses qui existent dans l'essence même des textes arabes et orientaux. Et c'est encore une fois toute la subtilité de Fatema Bernissi, toute la rigorosité de son travail, c'est que cet ouvrage est magnifiquement référencié et bibliographié. On retrouve une centaine de références, d'ouvrages peut-être même introuvables aujourd'hui, mais qui sont là pour appuyer chacun des arguments que Fatema Bernissi avance.
Oui, pour aller dans le même sens, d'ailleurs, je me souviens que certains de ses articles où elle allait recueillir les versions orales de certains contes, et c'est même l'amour grivois, les descriptions et les citations grivoises qu'elle restituait avec une certaine gourmandise,
oui.
Gourmandise d'universitaire, ça oui. Va sans dire, mais qu'elle restituait avec une certaine gourmandise et qui donne tout de même la profondeur de la culture dite arabo-musulmane.
Oui.
Au sens large. Alors, dernière question, parce que ça, on n'a pas eu le temps de tout évoquer. Elle a été aussi très active dans la société civile et elle a mené différentes initiatives. Ces initiatives continuent, je crois, en tout cas pour certaines.
Elles continuent, bien sûr, parce que Fatema Bernissi a laissé derrière elle toute une famille, ce qu'elle appelait, elle, sa famille cosmique. Et c'était en fait tout ce réseau, que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit au niveau des universitaires. Et ce sont des gens qui ont réellement tenu à perpétuer, à continuer de faire exister son travail. On ne peut pas évoquer ça sans parler de la création des chaires universitaires de Fatema Bernissi, qui ont été fondées sous l'impulsion de Driss Kitikus, de Asma Al-Mrabat, de Abdelrahman Tiazi, qui ont tout fait pour que la mémoire de Fatema Bernissi reste, mais aussi pour prolonger ce travail.
Il y a une chaire à Rabat, ce qui nous semble logique, mais je crois que ça n'a pas été la première. Et il y a aussi une chaire au Mexique.
Oui, et parfaitement.
Une troisième.
En Belgique.
En Belgique.
Voilà. Et donc, il y a cet aspect-là. Et puis aussi, à sa mort, il y a l'association des amis de Fatema Bernissi, qui a été fondée par Farid Mrini, psychiatre, psychothérapeute, qui était un ami intime de Fatema Bernissi, qui a énormément collaboré avec elle, et qui œuvre à continuer tout le travail que faisait Fatema Bernissi au niveau de la société civile, au niveau des tisseuses de Sazmart, avec qui Fatema Bernissi a énormément travaillé, au niveau des coopératives associative pour aider les mères célibataires, pour aider ces femmes qui ont besoin, qui vivent dans des situations absolument difficiles et qui ont besoin de cette aide de la société civile. Donc même après la mort de Fatema Bernissi, cette présence-là continue.
Merci, merci beaucoup Sundus.
Merci à vous.
Donc pour conclure, je citerai juste un très court passage du harem politique, le prophète et les femmes, où elle rapporte raconte une histoire avec Omar, le compagnon du prophète, qui un jour qu'il se disputait avec sa femme, l'a entendu lui répondre « Tu me reproches de te répondre » et par Dieu, les femmes du prophète lui répondent aussi et l'une d'elles la fuit jusqu'à la nuit. Et Omar était un peu estomaqué par ça, mais ça avait marqué un grand changement dans les rapports de genre, dans l'Arabie du 7e siècle. Nous rapporte Fatema Mernissi, c'est le type donc de travail qu'elle fournit. Parmi les œuvres de Fatema Mernissi, on peut lire aux éditions de Fienech « Rêve de femme, conte d'une enfance au harem » en collection poche, son essai « Peur modernité, conflit, islam et démocratie », ainsi que son désormais classique « Le harem politique, le prophète et les femmes » qui revient sur la vie de la famille prophétique.